Tu sais que c'est dans Hanouka. Dans le Mishnah Broura qu'on a l'habitude d'étudier le mardi, mais on va étudier les halakhot de Hanouka puisque Hanouka arrive à grands pas et on peut pas arriver comme ça, pas préparé.
Demain.
Ah oui. Alors, tout d'abord,
mercredi soir,
demain soir. Donc tout d'abord, c'est écrit que, Shranaur il nous dit que le 25 qui se lève démarre Hanouka. Pourquoi il nous le précise? Puisque c'est une marloquette à la base, c'est pas très clair que Hanouka démarre le 25 qui se lève. Parce que la question se pose, sur quoi on doit se baser, sur quelle partie du miracle on doit se baser pour fixer la date de Hanouka. Alors la date qui a été arrêtée, c'est la date du 25 qui se lève, puisque c'est a priori la date de la victoire principale. Vous savez, dans une guerre, il n'y a jamais de victoire absolue. Ça prend du temps avant d'arriver à une victoire. Il y a la victoire principale, et après, il y a encore d'autres victoires locales, d'autres petites victoires. La victoire principale était le 25 qui se lève.
C'était pas l'inauguration de la fiole.
Attendez, on va y arriver. Non, ça c'est justement. D'accord. Alors, la victoire était le 24, et Hanouka, ça veut dire quoi Hanouka? Ça veut dire Hanou, ils sont reposés, ils ont campé, Khafé le 25. C'est-à-dire que le 25 était déjà le lendemain de la guerre. Et en remerciement à Kadosh Baruch Hu pour avoir gagné déjà la victoire principale, après il y a toujours des petites guerrières là, comme ça continue encore, ça s'arrête pas. Mais la victoire principale a déjà été gagnée, c'est pour ça que on a fait Hanouka. À part ça, il y a le miracle de la fiole, on va y arriver.
Mais parce qu'on dit, le Hanouka, on ne fête pas la victoire militaire, on fête la victoire spirituelle.
Alors, justement, on va en parler tout de suite, D'accord? Donc, on a expliqué que Hanouka, il y a deux choses. Il y a une première partie du miracle, c'est le fait qu'on a gagné la guerre. Et une deuxième partie du miracle, c'est le fait que on a la fiole d'huile qui devait durer un jour, qui a duré 8 jours. Ce qui explique pourquoi Hanouka dure 8 jours. Parce que si c'est simplement une fête de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour un miracle, pour le fait qu'on a gagné une guerre, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que ça dure 8 jours. Ça aurait dû durer 1 jour. Donc il y a 2 miracles combinés ici. 2 choses. Premièrement, on a gagné la guerre. Deuxièmement, une fois qu'on a gagné la guerre et qu'on a voulu allumer les bougies, il y a le fameux miracle qu'on connaît. D'accord? Et donc, le temps qu'on récupère la nouvelle huile, ça a pris 8 jours. Donc c'est pour ça que la fête de Hanouka va durer 8 jours. D'accord? Donc 2 choses. D'accord? Mais ça veut dire que la raison principale pour laquelle on a instauré la fête de Hanouka, c'est parce qu'on a gagné la guerre. Ça c'est la raison principale. On a gagné la guerre. C'est une guerre matérielle et spirituelle, comme on aura le temps d'expliquer dans Tachem. C'est une guerre même surtout spirituelle. Pourquoi le remerciement à Kadosh Baruch Hu va durer 8 jours? Puisque, en parallèle à ce miracle-là, pour récupérer, donc toujours dans le cadre de la guerre spirituelle, pour récupérer la lumière de la menorah, on a dû avoir 8 jours, c'est pour ça que les Rachamim ont dit, cette fête est extensive, elle va durer 8 jours. D'accord? Alors, on n'a pas le droit de jeûner pendant ces 8 jours de Hanouka. D'accord? Donc tout est pareil, toute oraison funèbre est interdite pendant les jours de Hanouka, c'est-à-dire que c'est considéré un jour de fête, mais on a le droit de travailler.
On peut pèleriner pendant le...
On évite. À moins qu'il y ait une urgence, on évite. D'accord, tout ce qui est lié au jeûne, au deuil, au espèce, etc., on évite. Par contre, on a le droit de travailler. Ça veut dire que c'est une fête. D'accord, ça veut dire que c'est une fête, mais c'est pas une fête à 100%.
Dimanche.
Alors, c'est une fête... c'est pas comme pour la moelle. Oui, voilà, c'est une fête, on a le droit de travailler. Alors, les femmes ont pris l'habitude, c'est un minag, et aujourd'hui c'est une habitude qui a pris une force de halakha, et elles ont pris l'habitude de ne pas travailler tant que les bougies sont allumées. D'accord? Ne pas travailler, pourquoi? Puisque vous savez qu'une grande partie du miracle, une grande partie du miracle a été obtenue grâce à Yehudit, d'accord? Qui a tué Yehudit?
Le
chef des... Holoferne.
Holoferne.
Le chef des armées.
Eh
oui. Et donc une fois qu'on a tué le chef des armées, après la victoire était pratiquement donnée. Parce que bien sûr, une fois qu'on a tué la tête, c'est fini. D'accord. Un peu comme ce qu'ils font maintenant en Iran, là. Ils sont en train de tuer les têtes. Parce que vous entendez un peu les informations.
C'est sûr que c'est Mossad qui a fait ça. L'Israélien, il dit jamais rien.
Je sais pas qui fait quoi, mais ils font du bon boulot en ce moment.
Ils font du bon boulot, ils les descendent par an. Et ils disent non, nous, on n'y a pas rien.
D'abord, ils ont envoyé le virus. Après, maintenant, hier, ils ont tué la tête de celui qui combat le virus.
Ah oui.
Oui. Je sais pas.
Ils en ont tué 2 comme ça hier.
Ah oui. Ah oui, ben ils devraient tuer directement le chef.
Non, ils n'arrivent pas, ils essayent.
Non, ils essayent.
Il est
plus qu'au quadré. Il est...
Donc, les femmes ont pris l'habitude, on a dit, de ne pas travailler tant que les bougies sont allumées. Alors, ça veut dire quoi tant que les bougies sont allumées? Ça veut dire minimum le temps obligatoire de l'allumage des bougies, qui est une demi-heure après la tombée de la nuit.
Sauf Shabbat.
D'accord? Alors, Le moment, non, encore
après
une fois,
de
une demi-heure après la tombée de la nuit. C'est-à-dire que si j'allumais les bougies, par exemple, 20 minutes avant la tombée de la nuit, mes bougies doivent tenir 50 minutes.
Non, mais Shabbat, t'en allumes une heure et demie avant.
Très bien. Pas une heure, une heure avant.
Une heure avant.
D'accord.
Une demi-heure avant, une demi-heure avant.
Une demi-heure avant les bougies de Shabbat.
Voilà. Donc
et
ça veut dire
Shabbat,
une heure.
Une heure
voilà, donc nos bougies sont bonnes. En général, les bougies que vous avez, les bougies qu'on a là, les bougies lumière light, enfin, sans vouloir faire de pub. Elles tiennent 3 heures.
Ouais, c'est la
ah ouais.
Ouais, 3 heures. Tranquille.
Ah, c'est bien, c'est bien depuis longtemps. Parce qu'avant, les gens avaient des petites bougies là.
Bien sûr. Minimum 3 heures.
Oui, oui, le chauffe-plat. 3 heures. Entre 3 et 5 heures.
La bonne cam, c'est 5 heures. La cam machina, c'est 3 heures.
5 heures, 5 heures.
C'est marqué dessus.
C'est bien.
D'accord. Ceux qui n'ont pas d'huile, au moins avec des chauffe-plats, c'est bien parce que les. Par contre, bon, il faut s'assurer des alignés.
Les fioles d'huile, là, comme ils vont chez Costa, c'est
déjà 3 heures, ça. Au moins 3 heures. Au moins.
C'est idour.
C'est de l'huile, c'est de l'huile, quand on expliquera. C'est bien, c'est une grande mitzvah, c'est la meilleure mitzvah. C'est tant qu'à faire, on fait déjà une mitzvah.
C'est ça maintenant, c'est tout le monde.
Ah oui,
c'est un joli fils de l'opassade qui l'a
inventé.
Et là, ouais, j'ai vu son entrepôt là-bas.
Ah ouais ?
À Romainville.
Ouais. Mais il est imité.
Bon, mais pas égalé. Alors, on dit... Donc, on a dit que les femmes ont pris l'habitude de ne pas faire de travail, c'est-à-dire de ne pas faire de couture, pas faire de travail, ce qu'on appelle un travail. Un travail qui n'est pas lié à la fête. Par exemple, préparer, alors, il y en a qui permettent, voilà, préparer les bénis, ça, parce que c'est pour la fête. D'accord? Mais un travail qui n'a rien à voir avec la fête.
Non, mais ils vont.
Un travail qui n'a rien à voir avec la fête, c'est assez.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire des bénis, non, mais qu'est-ce que.
Alors, ce qui est intéressant également, et c'est ce qui est expliqué dans Shulchan Aruch, c'est expliqué notamment dans le Mishnah Brura, c'est qu'on remarque qu'à Hanouka, c'est Maïmonide le premier à faire la remarque de ça, qu'on remarque qu'à Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de faire des repas de fête. Contrairement aux autres fêtes de l'année.
Ouais, mais on arrose quand
d'accord.
Même.
Mais quand même, il y a le coup de
Hanouka.
Les béliers.
Et puis il y a le 25 décembre.
Les béliers.
Contrairement aux autres fêtes.
Ouais.
Contrairement aux autres fêtes, comme par exemple Pourim. Parce que finalement, Pourim et Hanouka, c'est des fêtes qui sont similaires. C'est à peu près la même chose.
On peut pas faire la dinde marron à Hanouka.
Allez, ça va parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. Hanouka et Pourim, finalement, c'est la même chose, c'est le même concept. On a voulu nous tuer, on s'en est sorti, bah au Hashem, tout s'est bien passé. Et pourtant, Pourim, on a instauré le Mishté, le festin.
Non mais, il n'y a pas eu la guerre à Pourim, on n'a pas gagné de guerre.
D'accord, alors, au contraire, c'est pas raison.
Si
déjà à Pourim, on a un Mishté, on doit organiser un festin, hein. Pourquoi Hanouka, il n'y a pas le festin de Hanouka?
Il y a l'histoire à Pourim.
Pourquoi? Oui, pardon.
Il y avait le Mishté de Mordechai.
Ben voilà.
D'accord, j'ai compris. Mais c'est surtout une fête dans laquelle on doit se réjouir du fait que Kadosh Baruch Hu nous a sauvés. Comment ça se fait qu'à Hanouka, on n'instaure pas ça?
Le Mishté des réminiscences de...
Alors, c'est le BRSL qui explique et qui ramène le Levouche. Dans Shulchan Aruch, dans la Halakhot de Pourim, il dit qu'on voit que il y a eu une différence fondamentale entre Hanouka et Pourim. C'est qu'à Hanouka, les Grecs visaient principalement notre âme. Alors qu'à Pourim, Aman, d'accord, il marchait mot lui aussi, visait notre corps. Il voulait nous tuer, peu importe ce qu'on croit et ce qu'on croit pas. Il voulait viser notre corps. C'est pour ça que dans la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, la reconnaissance de Hanouka va être principalement centrée sur l'âme. C'est pour ça qu'à Hanouka, par exemple, on va dire le Hallel. Chose qu'on ne fera pas à Pourim. D'accord? Pourquoi? Puisque c'est centré sur l'âme. Et c'est pour ça qu'on va célébrer ça avec la manière principale de célébrer Hanouka va être avec des bougies. C'est plutôt spirituel. Le feu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher réellement. D'accord? On peut le sentir, mais on ne peut pas le toucher. Ça veut dire que c'est plutôt spirituel. Alors que Pourim, c'est plutôt matériel. Donc il n'y a pas de mitzvah, comme dit Shulchan Aruch, il n'y a pas de mitzvah de faire des repas de fête pendant Hanouka. Néanmoins, dit le Shulchan Aruch qu'il y a quand même 7 mitzvahs. Voilà, je vous dis ces termes. Il y a quand même une petite mitzvah dans le fait de rajouter, c'est-à-dire de marquer le coup à Hanouka, de faire des repas améliorés. D'accord? Il amène ça du Maharal de Prague.
Il y en a forcément un des repas améliorés, celui du Shabbat.
Celui du Shabbat, bon. Mais même la semaine, si on peut améliorer le repas, voilà, par exemple, au lieu de prendre un petit déjeuner normal, on va prendre des beignets, d'accord? C'est une 7 mitzvah, c'est une petite mitzvah. D'accord? C'est une petite mitzvah, mais il faut savoir que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est pas comme pour Rim que c'est obligatoire.
Est-ce qu'il y a deux Shabbatos dans cette Hanouka?
Non, pas cette année, non. Pas cette année.
Sur un livret,
il y a toujours moins un Shabbat.
On a le droit de voir un coup de plus.
Il y a deux Shabbats.
Après, il y a quand même une Timra, non?
Alors, le Rabbeinu Nissim, il ramène un minak. Aujourd'hui, c'est un minak qui n'est pas très répandu. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude à Hanouka de manger du fromage.
Ouais.
Alors, on savait qu'on mangeait du fromage. Shavuot,
oui.
D'accord. Mais il y en a qui ont pris l'habitude de manger également du fromage. Pourquoi? En souvenir du fait que c'est Yehoudite. Yehoudite, comment elle a tué Holoferne? Elle lui a donné du fromage. Du fromage et quoi?
Dinar.
Et du vin. Du vin. Du fromage, du lait aussi, mais du vin. Il y avait du vin, il y avait les deux. D'accord?
Et alors?
Et donc, c'est pour ça que...
Après, il est en panne. Dieu. Elle a mis un dieu dans la tente.
Non, c'est pas... Ah, c'est pas elle.
Il est en panne.
Oui, oui, c'est ça.
C'est sûr.
C'est pas Yehoudi qui a mis un pied.
Oui, bien sûr.
Même qu'elle lui a dit, on va au pieu.
C'est
la femme de...
Non, c'est Yehoudi.
Un pieu dans la tente.
On n'a pas les mêmes
lignes.
Le chef des armées, c'est Yehoudi qui l'a tué. Elle lui a donné à boire, etc. Après, elle l'a tué.
On nous dit que c'est la femme du...
C'est dans Déborah,
Déborah, c'est une autre histoire.
Il y a mis un pieu aussi dans la tête.
Oui, c'est une autre, mais c'est pas la même. Là, il y a pas toute histoire avec le vin. Avec le vin.
C'est dans les mêmes méthodes.
D'accord.
Il est rentré dans la tente, elle lui a dit, au pieu.
Regardez vos blagues, macabre.
Il n'avait pas compris.
Vous êtes enregistré, hein.
Bon, d'accord.
Alors, ça c'est un premier point. Ensuite, d'accord. Un deuxième point qu'on explique à propos des bougies de Hanouka, c'est que il faut faire très attention à l'allumage des bougies de Hanouka. Et me dit Shulchan Aruch, même un pauvre qui n'a pas, qui gagne pas du tout d'argent et qui gagne, enfin, je veux dire, ce qu'il mange c'est de la tzedaka, même lui, on lui donne l'obligation d'emprunter ou bien même de vendre son vêtement, d'accord, donc un de ses vêtements qu'il a. Pour acheter de l'huile, alors c'est intéressant parce qu'on nous parle d'huile, apparemment à l'époque c'était l'huile, hein, il n'y avait pas les petites bougies. Hein. Pour acheter de l'huile pour allumer les bougies de Hanouka. C'est-à-dire que les bougies de Hanouka, c'est très important.
Il faut les acheter ou
tout le monde a l'obligation.
On peut les avoir gratuitement comme les nouveaux bougies.
On peut les avoir gratuitement. Comme s'il ne les a pas, personne ne les donnait. Non, c'est pas obligé. Ce qu'il faut, ce qui compte, c'est les allumer. C'est-à-dire, le pauvre qui ne les a pas, il a l'obligation de faire ce qu'il faut pour les acheter, quitte à même emprunter, alors qu'il a pas de quoi, il a découvert.
Qui c'est qui va lui prêter un pauvre?
Il doit allumer chez lui. D'accord? Pas chez soi, il doit allumer chez lui. Alors, faut savoir que autre chose, c'est que à la base, dans la Gemara, dans le traité Shabbat,
il a pas chez lui.
On n'a pas de traité de la Gemara sur Hanouka. D'accord, on a un traité de Gemara sur Purim, on a un traité de Gemara sur à peu près toutes les fêtes, sur Souka, sur Rosh Hashanah, sur Yom Kippour, Yoma, etc. Mais on n'a pas de traité de Gemara sur Hanouka, ça n'existe pas. Alors d'où on sait ce qu'on a fait à Hanouka, c'est dans la Gemara Shabbat, dans la page 21. Dès que la Gemara elle parle là-bas des bougies de Shabbat, elle fait une petite parenthèse qui dure deux pages, d'accord. Elle dit, puisqu'elle parle des bougies de Shabbat, elle se met à parler des bougies de Hanouka.
Je sais pas si c'est une grosse ampleur à l'époque.
Non, c'est pas que c'est pas une grosse. Je sais pas pourquoi. C'est une bonne question. En tout cas, il y a pas de Maseret Hanouka. Ça n'existe pas de Maseret Hanouka. Parce qu'encore une fois, c'était pas célébré. Il y avait pas de célébration autour du matériel. C'est surtout quelque chose de spirituel. C'est pour ça que ça n'a pas pris une forme comme.
J'avais lu un avis comme quoi tout le monde n'était pas très content que cette guerre elle était menée par des rois qui étaient des Kohanim qui sont devenus rois.
Oui, ça c'est vrai, c'est écrit. Mais ça change pas que c'est une fête qui est instaurée par les Chachamim à l'unanimité. Donc aujourd'hui, il y a plus c'est sans équivoque. T'es contre, ouais.
Alors que ça devait
mais après, être... aujourd'hui, c'est accepté. Ouais. Après, c'est accepté. Bah, on était contre parce que les Hashmonaïm, ils ont fait une guerre sans demander aux Chachamim, mais quelque part, les Chachamim n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'ils faisaient. D'accord. Ils n'avaient pas le droit d'être rois aussi, c'était pas des rois.
D'ailleurs, ça nous a emmené à la destruction.
Parce que, quelque part, hein, ce qu'ils ont fait, c'est un peu Misirut Nefesh, quand on réfléchit. D'accord. Qu'est-ce que les Grecs ne voulaient pas toucher à la vie des Juifs.
C'est des salons.
Ils voulaient toucher à la spiritualité des Juifs. Donc de quel droit 5 personnes sont parties en guerre contre tout un peuple, d'accord? Sous quel prétexte? Parce que vous nous laissez pas faire notre religion comme il faut. C'est pas clair qu'Alpi Alakha, ils avaient le droit de le faire.
Il y a 3 jours.
C'était 5 chers, mais ils n'étaient pas que 5 à faire la guerre.
Non, dites que les 5 personnes, c'était les enfants de Matatia.
Oui.
Matatia, c'est mon père.
Ah, d'accord.
Mais Matatia, c'était le Kohen Gadol.
Oui.
Donc, alors maintenant, on va parler de...
Il a le droit de faire...
Ils n'étaient pas des rois, non, ils n'étaient pas... Il y avait un problème. C'est des gens qui ont pris une position. Je vous explique que le problème qu'il y a eu, c'est que c'est des gens qui ont pris une position qu'ils n'avaient pas le droit de prendre. Ils ont pris une position, ils sont devenus rois d'eux-mêmes, sans demander et sans qu'on les nomme rois. Il y avait un problème. Et ils l'ont fait. D'accord? Ils l'ont fait, ils ont gagné. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont été obligés d'accepter que puisque la victoire est passée par eux, c'est-à-dire que quelque part, Dieu était d'accord avec ça.
Mais ils sont d'accord parce que quand ils ont allumé la pioche, elle a duré 8 jours, c'est que Dieu était d'accord.
Non, ça n'a rien à voir. C'est trop chaud ça.
Et après, ils sont revenus allumer.
Non, c'est trop chaud ça. C'est le peuple ça. Non, non, c'est pas. Il y a deux choses. Mais le peuple, c'est... on a deux miracles ici bien distincts. On a la victoire.
C'est à la suite de leur victoire qu'ils ont pu rallumer.
Oui, mais c'est pas lié à leur victoire.
Si, c'est lié directement à leur victoire.
Non, mais le miracle.
Non,
pas du tout. C'est pas lié à leur victoire. Il y a deux choses. Premièrement, on a gagné la guerre. Deuxièmement, dès qu'on a pu rallumer, on a pas trouvé de fiole et la fiole a duré 8 jours. C'est deux miracles distincts.
Et si on n'avait pas gagné, est-ce qu'on aurait pu allumer?
Si on n'avait pas gagné, on n'avait pas accès au Beth Amikdash.
Voilà, donc c'est un petit peu lié quelque part.
C'est lié, oui, si tu veux, mais en tout cas, c'est deux miracles.
L'un,
c'est pas une conséquence.
C'est pas une conséquence du tout.
Direct, même, conséquence.
C'est une conséquence directe. Non.
Bon, il y a une suggestion de fait, quand même.
D'accord, mais c'est deux miracles distincts, ils n'ont rien à voir. Et c'est pour ça que, il y a deux miracles distincts. Et c'est pour ça que, par rapport au premier miracle, du fait qu'on a gagné la guerre, c'est pour ça qu'on a instauré Hanouka. Et par rapport au deuxième miracle, c'est pour ça que Hanouka dure 8 jours. Il y a deux détails vraiment complètement différents. Alors, je vais continuer maintenant sur les bougies de Hanouka. Dans la Gemara, dans le traité Shabbat, on voit que, à la base, quand les gens n'allumaient pas comme aujourd'hui, ça veut dire les bougies de Hanouka, le premier jour une bougie, le deuxième jour deux bougies, troisième jour trois bougies. À la base, le standard, c'était, on allumait une bougie par personne.
Par famille, par jour.
C'est tout. Pour marquer le coup. D'accord? Après, dans la Gemara, on nous dit, il y avait les méadrines et les méadrines mina méadrines. D'accord? Oui, il y avait ceux qui faisaient le mieux, ceux qui faisaient le top du top. Et les marloquettes, Beth Hillel, les Beth Shammai, etc. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais la vie de Beth Hillel, c'est quoi? La vie de Beth Hillel, c'est d'allumer, justement, pour se rappeler du miracle. Pour se rappeler du miracle, on allume le premier jour une bougie, le deuxième jour deux bougies, le troisième jour trois bougies. Beth Shammai, c'est le contraire. Beth Shammai dit le premier jour 8, deuxième jour 7, troisième jour 6, etc. Alors, quel est le sens de cette marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai? Il y a une longue sikha du rabbi dans laquelle le rabbi explique la majorité des marloquettes de Beth Hillel et Beth Shammai. D'accord? Et il explique en vérité toutes les marloquettes entre Beth Hillel et Beth Shammai sont liées à un point. C'est quoi le point? Le point, c'est que selon Beth Hillel, on se base sur l'actuel. Ça veut dire sur le concret, pas sur le potentiel. Alors que selon Beth Shammai, on va toujours chercher le potentiel. J'explique ce que je veux dire. Le premier jour de Hanouka, d'accord? On a une fiole qui, potentiellement, on sait qu'elle va durer 8 jours. Donc Beth Shammai dit, puisque potentiellement je sais qu'elle va durer 8 jours, donc je vais allumer 8 bougies. Le deuxième jour, cette même fiole, combien de temps elle va rester? Elle va rester plus que 7 jours. D'accord? Pour l'instant, elle a brûlé que 2 jours, mais elle va rester 7 jours. Donc c'est pour ça que j'ai loué 7 bougies. Ça veut dire que selon Beth Shammai, on suit toujours le potentiel des choses. Alors que selon Beth Hillel, on ne suit pas le potentiel, on suit le concret. On dit, le premier jour, il y a combien de temps ça a été allumé? Un jour? Alors on allume une bougie. Au jour le jour, deuxième jour, combien de temps ça a été allumé? 2 jours? Ah bah très bien, Mazel Tov, 2 bougies. Troisième jour, combien? 3 bougies? Ben très bien, 3 bougies. Etc. C'est comme ça qu'on avance. Et aujourd'hui qu'on est en galoute et qu'on n'arrive pas à voir le potentiel des choses, tout ce qu'on sait voir, c'est uniquement le concret. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on suit la vie de Beth Hillel. Le premier jour, une bougie. Deuxième jour, deux bougies. Troisième jour, trois bougies. Etc. Etc. Et avec ça, on explique la majorité des marloquettes, si ce n'est même toutes les marloquettes entre Beth Hillel et Beth Shammai.
Mais en fait, la bougie qui compte, c'est la bougie du jour.
Oui.
Les autres, elles sont là parce que...
Non, on augmente non, la lumière.
Non, justement.
On commence par la bougie du jour, enfin par le chamage.
Non, justement, c'est ça ce qu'il dit Beth Hillel. Beth Hillel, il dit comme ça. Beth Hillel, il dit, le premier jour, le miracle pour moi n'a duré qu'un jour. Ça veut dire, en ce qui me concerne, moi j'ai vu qu'un jour de miracle. Donc j'allume une bougie. Le deuxième jour, le miracle a duré 2 jours. Je dis, ah, il a duré 2 jours, alors 2 bougies. Selon Beth Hillel, c'est selon ce qu'on a contemplé du miracle. Selon Beth Shammai, c'est pas selon ce qu'on a contemplé du miracle, c'est selon le potentiel du miracle. Bon, d'accord, en tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, on fait la halakha, d'accord? Donc, on a dit...
On voit la réalité.
Oui, est-ce qu'on se focalise sur le potentiel ou sur le concret? D'accord? Donc, nous, aujourd'hui, on fait comme Beth Hillel, donc, premier jour, une bougie, deuxième jour, deux bougies, etc. Tous les jours, on rajoute une bougie. D'accord? Alors, on a une marloquette, maintenant, dans la Gemara, entre Tosfot, dans les commentaires de la Gemara, entre Tosfot et le Rambam. Entre Tosfot et le Rambam, qui est, quand on est nombreux dans la maison. D'accord, quand on est nombreux dans la maison, c'est-à-dire que je ne suis pas seul, on est par exemple plusieurs garçons, est-ce que chacun des garçons doit allumer une Hanoukia? D'accord? Donc on a le Mechaber, qui nous suit pour la Bible des Sfaradim, qui nous dit, Afilou Rabim Bnei Abayit, même si les membres de la maison sont nombreux, on n'allume pas plus qu'une Hanoukia par maison. Pas besoin d'allumer plus que ça. Et ça, c'est l'avis de Tosfot. D'accord? Et il y a un deuxième avis qui est ramené ici dans Shulchan Aruch, d'accord? C'est l'avis du Rambam, l'avis du Maïmonide pour les Ashkenazim. Qui disent que chacun de la maison, chaque membre de la maison, c'est-à-dire chaque garçon de la maison plus que Bar Mitzvah, doit allumer sa propre Hanoukia, bien sûr, en allumant, donc toujours, premier jour 1, deuxième jour 2, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? c'est que Tosfot, il vient du monde des Ashkenazim.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Le Ramban vient du monde des Sfaradim. Et ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que les Sfaradim ont pris l'avis du Tosfot. C'est un fait, hein, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Et les Ashkenazim ont pris l'avis de Rambam. D'accord? Donc une fois, il y avait une sikha du Rabbi dans laquelle Rabbi l'a expliqué. C'est là qu'on voit le concept de la Ahdout dans Hanouka. C'est extraordinaire. C'est les Ashkenazim, ils ont suivi les Sfaradim et les Sfaradim ont suivi les Ashkenazim. D'accord? C'est là qu'on voit vraiment une Ahdout. Pas jamais d'accord, exactement. C'est même quand ils ont été d'accord avec nous, maintenant c'est les autres qui vont prendre l'autre. Ils disent, bon, vous savez quoi? Nous, on va prendre votre avis.
Ah, vous êtes comme nous, alors on ne fait pas comme vous.
Alors finalement, comment il faut faire?
Alors voilà, selon les Sfaradim, selon les Sfaradim, c'est une Hanoukia par maison. D'accord? Une Hanoukia par foyer. Une Hanoukia par foyer. Néanmoins, nous dit le Maharal de Prague, qu'on fait attention, même si les Ashkenazim, on allume une Hanoukia par personne, il faut les allumer quand même de manière distincte. Parce que si après on a un méli-mélo de bougies, on n'a rien gagné. Parce qu'on verra après dans la lochot de Hanouka qu'il faut faire très attention à ce qu'on voit clairement qu'il y a une rangée. D'accord, qu'il y a une rangée, que c'est...
Qu'il y a eu
une...
Oui,
tu penses ça?
Oui,
oui. Pourquoi le Lubavitch?
On en a 5 à la maison quand on est 20, ouais. Et on sera 20 là dans quelques jours, il y a 20 Hanoukot, il y a une fumée noire.
Mina Kravat, on fait comme ça aussi. Ouais, je fais comme ça. Même mes enfants.
Il est bon de prendre.
Je vais lui faire allumer. Ouais. C'est pas formidable. Pour l'éducation.
On rajoute.
Ouais. Et par contre, bon, aujourd'hui, le problème se pose plus. Aujourd'hui, le problème se pose plus vraiment parce qu'aujourd'hui, les Hanouka, au prochain, on a des structures dans lesquelles on pose les bougies. Donc je veux dire, c'est assez, on voit clairement que ça, c'est une Hanoukia, ça, c'est une deuxième, ça, c'est une troisième. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, on posait des fioles. Et donc du coup, quand on met toutes les fioles comme ça et que c'est pas de manière distincte, ça peut poser un problème.
Il faut les aligner quand même.
Il n'y
a pas le nom,
mais
il n'y a pas le...
Ah oui. Bon, moi aujourd'hui, bah, au Hachem, il y a les structures, c'est visible. Alors, autre chose aussi que nous dit Shulchan Aruch, c'est qu'une bougie, qui a deux mèches, est considérée comme deux bougies pour Hanouka. D'accord ? Oui.
Ouais.
Est considérée comme deux bougies. Ça veut dire du style... Si une personne n'a pas de quoi allumer 8 bougies, mais qu'il a un grand bocal dans lequel il va mettre de l'huile et qu'il va aligner 8 mèches, eh ben c'est considéré 8 bougies.
Ouais.
Mais attention, il faut qu'elles soient droites.
Ouais, elles sont pas droites. Ah.
Maintenant, si ce sont des veilleuses dans un grand récipient,
voilà.
On met
ce que je viens de dire, c'est bon, mais il faut les aligner. Le problème, c'est qu'elles vont bouger. Avec un ça bouge très rapidement.
Avec l'éthanol, on peut allumer.
Avec les
l'éthanol.
Pourquoi on ne pourrait pas allumer?
Il
n'y a pas une histoire de mauvaise odeur pour Hanouka, c'est pas comme Shabbat.
L'éthanol, parce que ceux qui ont des trucs à l'éthanol, tu sais qu'il y en a plusieurs.
Oui, j'ai compris.
Il y en a une, est-ce que c'est compté comme allumé?
Ça se fait avec l'éthanol. C'est l'esprit qui compte.
Ça veut dire quoi que c'est
les cheminées à éthanol, j'en ai une dans la maison, mais elle n'en a pas 8. Moi, ça me concerne pas.
Il
y en a qui rentrent comme ça, ils
m'expliquent. Il y a du feu! Il y a du feu!
C'est sûr,
c'est bon, c'est fini. Dès qu'il y a du feu, c'est bon.
Il a des lampes électriques.
D'accord? D'accord, dès qu'il y a du feu, c'est bon. Alors, maintenant, autre chose qui nous dit le Shulchan Aruch, d'accord, c'est que donc il faut faire attention, comme j'ai dit, à ce que les bougies soient en ligne droite et pas en rond. Pourquoi? Parce que quand c'est en rond, ça ne paraît plus comme une menorah, ça paraît plus comme un chandelabre, ça paraît plutôt être ce qu'on appelle une médora. Une médora, c'est quoi? Ça veut dire c'est un feu, d'accord? Un feu, c'est comme ce qu'on fait à l'Akba Omer. Quand on fait ça a l'air d'être un feu de camp. Donc ça, c'est pas bon. Alors, continue le Shulchan Aruch, il nous dit, faut faire attention particulièrement dans les bougies de cire. D'accord? Que dans les bougies de cire, si elles sont trop collées, d'accord? Et que la mèche, et que visuellement, ça forme pratiquement une seule flamme, ça pose problème. D'accord? Donc faut bien les espacer. D'ailleurs, bon, de toute façon, le problème ne se pose même pas parce que ça fond. D'accord? Donc,
quand les Hanoukot, c'est trop près.
Et d'ailleurs, il nous dit, ça c'est quelque chose que le Or Zaro nous dit, qu'il faut faire attention aussi, même pour les bougies de Shabbat, la même chose. Faut pas trop les coller. Il faut pas que visuellement, quand je regarde de loin, j'ai l'impression que j'ai une seule flamme. D'accord? Bon, il faut vraiment que ce soit collé pour ça. D'accord? Oui. C'est-à-dire, visuellement, quand elles sont collées, tu les vois de loin, avec un peu de loin, etc., tu crois que t'as une seule flamme. C'est un problème. Il faut les espacer de manière à ce que visuellement, quand je les vois, je vois clairement qu'il y a deux flammes. Sinon, c'est considéré une seule bougie. À part ça. Ah, ça c'est aussi une autre question. Où on pose les bougies de Hanouka? D'accord? Alors, à la fenêtre, à la porte, d'accord? À la porte qui donne à l'extérieur, à la porte de la maison, à la porte de la salle à manger, où on pose les bougies de Hanouka?
À la porte d'entrée, si on peut.
D'accord?
On est la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche.
Alors,
entre les deux.
Très bien. On va en parler.
À côté le bouton.
Alors, à côté, oui, à côté.
Il n'y a pas de mais.
Tu avais du préserve quand j'étais à New York, quand on allait dans les maisons. Bon, bah, au Hashem, là-bas, les gens, ils allument les bougies de Hanouka. Hein. D'abord, mais ils allument à l'électricité. Ouais. Mais à côté du sapin. Ouais. C'est malheureux.
Moi, j'ai vu un sapin en forme de menorah.
Non, non, c'est pas des blagues. Vous allez dans les, vous savez, dans les halls d'immeubles. Vous savez, ils décorent les immeubles, c'est normal, comme d'accord, dans tous les immeubles qui sont un petit peu, qui respectent un peu. Il y a les deux.
Il y a les deux.
Il y a le sapin et la Hanouka.
Dans les vitrines.
Ouais.
Oui.
On l'a vu dans Maman, j'ai raté l'avion.
Même dans les vitrines. Non, mais même dans les vitrines. Vous allez dans les vitrines à New York, à Manhattan, de Macy's, etc., vous voyez un sapin et une menorah.
Non, c'est d'être surpris, parce que c'est comme ça ici aussi, à Paris.
Moi, j'ai vu à Paris à la
aujourd'hui,
à la
ici,
place
c'est, d'Italie. Ici, à Paris, c'est ou le sapin, ou la menorah.
C'est pas sûr. Les Américains, c'est les deux, c'est pas grave.
Mais est-ce que ça vaut d'Azara, un sapin, c'est sûr?
Mais le sapin, ça représente pas le
sapin. Tu
caches un sapin pour Noël, à Noël, juste à Noël, c'est un d'Azara.
Moi, j'ai posé.
Le sapin, ça ne représente pas.
Moi, j'ai posé la question une fois quand j'étais à New York, j'ai posé la question rave. Parce que quand on voyait les gens dans la rue, quand on leur demandait est-ce qu'ils étaient juifs ou pas pour Hanouka, alors bon, si les juifs, tu lui dis joyeux Hanouka, est-ce que vous avez du BPJ, etc., tu lui proposes un kit, etc. Et si les non-juifs, qu'est-ce que tu lui dis? C'était en parallèle avec les fêtes. Alors, on avait envie de lui dire bonne fête. D'accord? Alors, j'ai posé la question au rave, la question au Roche Collel. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'on peut leur dire bonne fête? Est-ce qu'on peut leur dire au revoir?
Noyeux Joël.
C'est leur fête, t'as envie de leur dire quelque chose. Alors, il m'a dit, on a envie de leur dire bonne fête. Puisqu'il m'a dit, aujourd'hui, la fête de Noël, aujourd'hui, n'a plus le caractère religieux comme avant.
Il a fini par le dire.
Oui. C'est plus un caractère religieux comme avant. Avant, c'était vraiment un caractère religieux, c'est-à-dire qu'on marquait l'anniversaire des marchemots. Aujourd'hui, c'est les cadeaux.
Ils vont à la messe, ils sont à minuit.
Pour marquer leur fête quand même.
C'est un signe religieux.
À l'époque, c'est
quand même, même s'ils le font pas. Non, mais
d'accord. Alors, messieurs.
Messieurs.
Alors, on repose la question. Où on pose les bougies de Hanouka?
Alors
attendez, on va dire que c'est Shulchan Aruch à la base. Normalement, le bougie de Hanouka, on doit le mettre sur la porte qui donne au domaine public. D'accord? Et si la porte de ma maison donne sur une cour qui m'appartient et que la cour donne sur le domaine public, je le mets à la porte de la cour.
Ouais.
D'accord. Là, on s'imagine en Israël où bah, au Hashem,
ouais, tout est
c'est bon, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de.
Et les gens, ils peuvent passer, personne ne les.
Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. D'accord. Bon. Maintenant, si j'habite à l'étage, ou bien que ma maison ne m'appartient pas, ou bien que je ne peux pas allumer vers l'extérieur, ou bien le classique d'aujourd'hui, c'est que je me trouve en exil et qu'on n'allume pas, je peux pas allumer vers le dehors, on risque de m'attaquer. D'accord. Alors là, dans ce cas-là, c'est là qu'on nous dit. Que le Shulchan Aruch nous dit que on le met à la fenêtre. D'accord? Si je peux pas le mettre à la porte de ma maison ni à la porte de la cour, je le mets, ou bien j'habite à l'étage par exemple, ou je le mets à la fenêtre de manière que ce soit visible à l'extérieur. Mais, d'accord?
À l'intérieur de la fenêtre, pas à l'extérieur.
Naturellement. Mais quand c'est une sakana, ça c'est un cas qui ramène dans la Gemara. Quand c'est une période de danger, que on peut pas, ça veut dire que les gens savent qu'on est juif, il ne faut pas non plus les provoquer. D'accord? Là, dans ce cas-là, Béchat Asakana, c'est écrit, la Gemara dit, Menicho Ashulchano Vedayo. Je le pose sur ma table et ça suffit. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, avec le temps, malheureusement, le Ham Israël, on est passé par des périodes de Sakana, donc on a pris l'habitude de ne plus vraiment les allumer à la porte qui donne vers l'extérieur. On les allume à l'intérieur. En Israël, il y a des gens qui ont repris cette habitude, c'est une très bonne chose. Mais en dehors d'Eretz Israël, bien que tout le monde sait qu'on est juif, on n'a pas trop envie de provoquer. En tout cas, on a gardé ce sentiment, pas d'infériorité, mais on n'a pas envie de provoquer.
Oui.
Donc c'est pour ça que même à la fenêtre, on n'allume plus forcément à la fenêtre, on l'allume à la maison.
Sais,
d'accord. Il y a différents minagim. D'accord. Souvent, il y a différents minagim. C'est une très bonne question ce que tu poses, on va en parler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on allume à la maison. Et quand on allume à la maison, on va allumer, après ça dépend des minagim. Il y en a qui vont quand même allumer à la fenêtre. Il y en a qui vont allumer sur la table de la maison. Mais le mieux, si déjà on allume à la maison et que c'est pas à la fenêtre, c'est d'allumer à la porte de la maison. D'accord? Dans le côté contraire de la mezouza. Comme ça, quand on passe, on est entouré par des mitzvot. Mezouza d'un côté.
On peut faire pareil à l'entrée. C'est ce que je fais à l'entrée du séjour, face à la mezouza.
Oui. Oui, moi aussi, je fais l'entrée du séjour. Mais techniquement, on aurait pu la poser sur la table, il n'y a pas de problème. Quand vous allez, par exemple, je vais chez des gens, il va pas l'allumer sur la porte, il va le poser sur la table. Il n'y a pas de problème. Techniquement, une fois que c'est plus à la fenêtre et que c'est plus à la porte qui donne à l'extérieur, techniquement, on peut l'allumer où on veut. Après, c'est symbolique de l'allumer à la porte pour être entouré par des mitzvot, la porte principale, que ce soit visible. Après, c'est symbolique.
Soit vu ou pas, en vérité.
Il y a l'obligation de pire souvent.
Alors, maintenant, aujourd'hui, vous voyez, au Hacham, on allume les bougies, on allume l'allumage public, comme dit la ville, la place d'Italie, etc., toutes les plus grandes places de Paris. D'accord?
On a même vu une vraie pub.
Bon. Alors, ça c'est parce que, encore une fois, ça c'est parce que les choses ont changé. D'accord? Que les choses ont changé qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'accepte. D'accord? Donc, tu as raison. C'est vrai que techniquement, on aurait pu aujourd'hui allumer les bougies de Hanouka à la fenêtre. Puisque aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, les gens acceptent beaucoup plus facilement la religion. On n'a pas vu des gens qui nous ont attaqué pour ça. C'est très rare. D'accord? Même aux États-Unis, il y a eu quelques cas de jurisprudence au début dans lesquels les Chabad ont été attaqués pour le fait d'allumer les bougies de Hanouka. Mais ils ont toujours gagné. Parce que c'est pas logique qu'on met les sapins et qu'on met pas les bougies de Hanouka. D'accord? On respecte les religions, donc c'est quelque chose qui est accepté. Mais pourtant, le minhag n'a pas été repris de mettre les bougies de Hanouka à la fenêtre. On a gardé le minhag de les mettre à la maison, dans un endroit central.
Parce qu'on est en immeuble, ça n'existait pas les immeubles.
Alors, il y a un autre point aussi que nous dit Shulchan Aruch, c'est que quand on dépasse Estrim Hama, 20 Amot, donc 20 Amot, c'est-à-dire combien? 20 Amot, ça veut dire 10 mètres. Quand on dépasse 10 mètres du rez-de-chaussée, enfin 10 mètres du public, 10 mètres, donc c'est à peu près 3 étages.
Il n'y a plus les mètres à la fenêtre.
Ça sert plus à rien de les mettre à la fenêtre.
Ça sert, parce que
ça vis-à-vis. Ce qui compte, c'est pas le vis-à-vis, c'est les gens de la rue. Eux, ils doivent voir. D'accord? Et c'est pour ça que quand on est
le gens en face qui a oublié que c'est un gars, il peut le voir.
D'accord, mais c'est pas ça la méthode de Pierce Meunier, ça. D'accord?
Pas Tunis.
Il veut pas le dire.
Tunis? Très bien. Très bien. Vous faites toujours à la fenêtre?
Moi, je le mets à l'entrée.
C'est bien. Il y a pas de, c'est très bien, c'est le minhag. Encore une fois, je dis, si c'est un minhag qui a été perdu, c'est parce qu'on est passé par des périodes de danger, donc c'est un minhag qui s'est perdu. Vous avez raison que si c'est pas à la porte de la maison ou à la porte qui donne sur le domaine public, d'accord? C'est la fenêtre.
Je savais pas que au-dessus de 3 étages, j'en pouvais pas. Non, le métier à
fenêtre. Attention.
C'est plus le même sens.
C'est bien que les gens y voient.
Je vais vous expliquer. En fait, à l'époque, on connaissait pas des maisons qui avaient plus de 3 étages. D'accord. Donc c'est pour ça que la question ne s'est pas vraiment posée en Shulchan Aruch. La question qui s'est posée en Shulchan Aruch, c'est si j'allume une menorah qui démarre au rez-de-chaussée, mais que je la fais monter 20 mètres, est-ce que ça sert à quelque chose d'allumer la bougie en haut? Et c'est là que Shulchan Aruch dit non. Il dit moins que 20 mètres. Enfin, je veux dire plus que 10 mètres, les gens ne le voient plus. Mais par ricochet, on apprend que dans un immeuble plus haut que 10 mètres, c'est-à-dire plus haut que 3 étages à peu près, plus haut que 3 étages, on ne voit plus. D'accord? Donc il n'y a plus vraiment d'importance. Mais après, bien sûr, on peut toujours le faire, comme il dit, parce qu'il y aura toujours un voisin qui va le voir.
Moi, je fais ça pour ça. J'ai un voisin qui est marié avec une juive. Et je fais ça pour lui. Il est content.
Ah, maintenant, tu vas lui donner une menorah?
Je vais la porter. Il va regarder comme ça. La maison, elle va brûler. Il va vouloir te chercher avec un flingue.
Alors, autre chose aussi qu'on lui donne sur un Aour. Donc, on a deux restrictions. Première restriction qu'on a, on a dit, il ne faut pas qu'il soit plus haut que 10 mètres. D'accord? Deuxième restriction qu'on a, il faut pas que ce soit posé plus bas que Gimel Tfahim. Gimel Tfahim, ça veut dire quoi? Gimel Tfahim, c'est-à-dire 30 cm. C'est-à-dire, il faut qu'il soit haut au minimum de 30 cm. Puisque moins que 30 cm, on considère que l'œil ne voit pas.
Au-dessus
de 30 cm. Parce qu'on considère qu'en dessous de 30 cm, l'œil ne voit pas.
Donc, en bord de fenêtre, c'est ça. Merci, monsieur Vittor, je comprends, mais si tu allumes des bougies par terre carrément, tu vas aller voir.
Il est ma boule, il va allumer par terre. Tu fais ce que tu veux, mais c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on considère que moins de 30 cm, l'œil normal ne voit pas. Fais pas attention. Plus haut que 30 cm, on voit.
C'est une petite table.
D'accord? Voilà, donc on le met en général sur une petite table, enfin, sur un petit tabouret, etc.
Non, on s'allume les vêtements.
Quoi?
Oui, c'est pour ça que je ne vais pas dans la fenêtre. Il faut se méfier des lumières basses parce que tu passes.
Moi, je le mets sur une chaise.
Oui.
Sur une chaise que je couvre d'aluminium.
D'accord, oui, on peut un joli plateau.
C'est
pas design.
Pourquoi la chaise peut être design? Tu mets.
Non, mais l'aluminium.
Tu mets un plateau. Tu recouvres d'aluminium. Bon. Ah, c'est pas.
C'est des décorateurs, c'est pour ça.
Oui.
Non, mais ils vendent du papier aluminium.
Alors, autre chose.
C'est mieux.
Voilà. Très bien.
Peut-être que tu voulais faire un truc design.
Ok. Alors, à la synagogue, on va allumer aussi la Hanoukia, d'accord? Alors, à la synagogue, on va allumer la Hanoukia principalement le soir, donc le, le, principalement le soir, d'accord, parce que le concept c'est le suivant, et d'ailleurs tous ceux qui sont en magasin c'est la même chose. Le concept c'est le suivant, c'est qu'on nous demande de faire un maximum de pirsoumen nissa, de répandre le miracle. Donc répandre le miracle, il y a deux choses dans Hanouka. Premièrement, il y a une mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka, c'est une mitzvah personnelle qu'on doit allumer le soir, etc. Enfin, un peu avant la tombée de la nuit. C'est la meilleure mitzvah, de seconde. Mais à part ça, il y a un caractère de pirsoumen nissa, de répandre le miracle. Et ce caractère-là de pirsoumen nissa, il dure tous les 8 jours. Il n'est pas limité forcément à la nuit. C'est pour ça que quand on a un magasin, par exemple, c'est une mitzvah. Alors c'est pas la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka, mais c'est une mitzvah d'avoir une Hanoukia allumée même toute la journée. Comme ça, les gens, ils peuvent se dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu leur expliques, c'est Pirsoumenissa, ça s'appelle répandre le miracle. D'accord? Bien sûr, partout s'allumer. Ça, donc aujourd'hui, si vous pouvez allumer les bougies, si vous pouvez allumer les bougies de Hanouka dans votre magasin, si.
Moi, j'allume.
D'accord? C'est une grande mitzvah, c'est bien.
Les vendredis soir.
Sachez que c'est la raison. D'accord? Non, mais elle est très bien électrique. Sachez que c'est la raison principale pour laquelle on allume les bougies de Hanouka à la synagogue. C'est pas pour se rendre quitte. D'accord? C'est pour répandre le miracle.
La grande Hanouka qui est allumée en public.
Pareil, c'est ça.
La valeur, elle est au-delà de 10 mètres, la plupart du temps.
Encore une fois, de toutes les façons, la grande Hanouka avec laquelle on allume en public, elle n'acquitte pas les bougies de Hanouka, puisque c'est électrique, c'est complètement électrique.
Non, moi j'ai déjà vu des allumages avec du mazout. Oui, il y avait des grosses flammes et
du gaz. C'est du gaz, non, c'est pas. Enfin bon, selon la majorité des avis, on n'est pas quitte de la mitzvah de Hanouka. C'est pas fait pour la Hanouka. C'est fait pour pirsoumen nissa.
Pour répandre le miracle.
Quand, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. Il y a 2 ans, il y a une personne. J'étais même pas au courant. Il y a une personne qui est venue voir ici un allumage public à Place d'Italie.
Oui.
D'accord, c'est un mardi soir. Oui, je l'ai raconté.
Ça, tous les ans.
Ah bah oui. Non, il y a 2 ans. Non. Il y a 2 ans.
Oui, c'était.
Quand, je sais même pas qui c'est. D'accord, je sais même pas qui c'est. Quelques jours plus tard, il est parti voir un Moël à Créteil. D'accord, j'ai le docteur Brami. Il a demandé, il veut faire la Brit Mila. Maintenant, le bonhomme, il a 70 ans. Alors, il a dit, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur, à 70 ans, vous voulez faire la Brit Mila? Bon, plus sûr, il lui a fait.
Il a eu un flash.
Il lui a dit, parce que je suis passé à l'allumage de bougies à Place d'Italie, maintenant, moi, je sais même pas qui c'est, hein. J'étais là-bas. D'accord? Et je me suis dit, il faut que je fasse la Brit Mila avant de mourir. Ah, c'est une histoire qui s'est passée ici, il y a 2 ans.
Tous les ans, il y a des histoires.
D'accord? Mais des histoires comme ça, on sait même pas ce qui se passe. On sait même pas ce qui se passe. Parce que, encore une fois, pirsoumen nissa, répandre le miracle.
Et c'est Noël qui t'a dit,
ouais. Ah ouais, moi, je suis resté bête.
Pirsoumen nissa.
Il n'y a rien que pour ça, il fallait l'allumer ces jours-là.
Ah oui, c'est vrai, tu te dis, c'est beau. Le gars, il s'est dit, il faut que je fasse la Brit Mila avant de mourir. Donc, je conclue avec ça. Peut-être on continuera demain, comme ça, on fera encore de la Chodor Hanouka exceptionnellement. Donc, je conclue avec ça. La raison pour laquelle à la synagogue, on allait le bougie de Hanouka, c'est pour pirsoumen issa, pour répandre le miracle. Et à la synagogue, on a pris l'habitude, ça c'est Alpi Kabbalah, d'allumer la menorah du côté sud. D'accord? Le côté sud. Donc le côté sud, ça veut dire, c'est là.
Quoi sud? Moi, ma fenêtre, elle donne vers l'est.
C'est pas pour ça.
Non, pas l'est, mais l'est, à la gauche de l'est, quoi.
Le sud, de ce que je me rappelle, c'est que le sud, c'est lié au fait que dans le Beit HaMikdash, on allumait la menorah. La menorah était placée côté sud. Ça veut dire comme ça. Dans le Beit HaMikdash, on avait le Mizrar qui était devant, et la menorah était posée comme ça, vers le sud.
Tu veux parler de l'orientation?
L'orientation.
D'accord.
La menorah était orientée, pas comme ça, elle était orientée comme ça, vers le sud.
Oui, mais si après les gens qui passent dans la rue, ils voient plus qu'une ligne.
Ah, mais ça n'a rien à voir avec les gens de la rue, ce qu'on allume à la synagogue.
Non, je te parle pas de la
c'est pour que les gens, c'est une manière que partout où je vais de la lumière, je vois la Hanouka pour répandre le miracle.
Et à la maison,
la
maison pour les horaires, c'est merde là. Faut être précis pour les horaires.
Où est-ce qu'on la met?
Normalement, il faut essayer de
pour les horaires.
Les horaires de l'allumage.
Le mieux, c'est d'allumer peu avant la tombée de la nuit. Ça veut dire environ 20 minutes, une demi-heure avant la tombée de la nuit. Ça,
c'est le mieux. Après la tombée de la nuit, on peut.
Sûr qu'on peut. D'ailleurs, si avant la tombée de la nuit, c'est un moment dans lequel les membres de la maison ne sont pas encore là et qu'on préfère attendre que tout le monde soit là, c'est mieux d'attendre que tout le monde soit là. Ça passe avant.
Sauf si tout le monde allume, chacun sa menorah.
Toute la nuit, on peut allumer.
C'est mieux d'allumer
quand tout le monde est là.
Donc, il faut aller à
1748,
femmes.
Tout le monde est là.
La famille.
1748. Prenez mon magasin, allez mon magasin.